Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Une nuit en librairie. Le podcast littéraire du magazine Elle. Une nuit en librairie par Olivia de Lamberterie. Une nuit en librairie avec Isabelle Carré.
Bienvenue dans une librairie mythique. Le Divan a été fondé en 1921 à Saint-Germain-des-Prés par Henri Martineau, libraire, éditeur, spécialiste de Stendhal et médecin. La légende raconte qu'il prescrivait à ses clients le rouge et le noir. Cela tombe bien, car pour notre invité, les livres ont le pouvoir de soigner. Nous sommes donc au Divan, installé désormais dans le 15e arrondissement, 203 rue de la Convention. Il est 20h30, les clients sont partis, la nuit est presque tombée, nous voilà enfermés dans cet espace aux multiples facettes, avec une femme aux multiples facettes. Actrice aimée et admirée pour sa sensibilité et sa subtilité, elle a livré, délivré ses propres mots il y a 2 ans dans un premier roman juste et émouvant, « Les rêveurs ». Elle revient en cette rentrée avec Du côté des Indiens chez Grasset, un deuxième roman tout aussi poétique mais plus vaste. Comment traverser les remous de l'existence sans perdre son âme ni sa foi en la vie. Et cette actrice qui cache une autrice cache aussi une grande lectrice. Chic, 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 nous voici enfermés pour une nuit en librairie avec Isabelle Carré. Bienvenue Isabelle.
Merci.
Alors le principe est simple comme bonsoir. Nous allons nous promener parmi tous les rayons de cette librairie, qui n'en manque pas, et vous allez nous raconter, vous raconter, au travers des livres qui vous ont nourri, apaisé, porté et même parfois sauvé.
Une nuit en librairie.
Merci de nous accueillir, Philippe Touron. Vous êtes le directeur de cette librairie. Ça fait des années que je me pose cette question. Pourquoi ce nom du Divan ?
C'est une très jolie question. Henri Martineau était un Stendhalien fou et passionné. Et le titre est, lui, choisi en hommage à un livre de Goethe, un recueil de poésie qui s'appelle « Le Divan ». Et ce très beau livre est une célébration du poète persan Hafez. En perse, « divan » signifie « recueil de poésie ». Et en arabe, il signifie « lieu de rencontre et de conversation », l'endroit où l'on parle. Et coup de chance merveilleux, le nom, la signification s'est enrichie du divan du psychanalyste. Donc on a la chance d'avoir une librairie qui est riche de symboles.
Et qui est riche de milliers de titres, quelques chiffres avant les lettres. Combien de titres, combien de libraires?
C'est une très belle question, parce que c'est vraiment ça notre métier. On a une belle équipe de 20 libraires et 60 000 titres autour de nous.
C'est vertigineux, on ne pourra jamais tout lire.
Non, mais on peut peut-être tout essayer. En quel état d'esprit êtes-vous dans cette rentrée littéraire un peu particulière?
La grandeur du métier de libraire, je pense que c'est de servir. Et on a à ce moment-là le travail des éditeurs, des auteurs et des traducteurs. Donc même si on met en avant nos coups de cœur, et c'est ce qu'on va faire avec Isabelle Carré, notre métier c'est aussi de mettre en avant quelque chose qui nous dépasse et qui est plus grand que nous. Et là évidemment il est plus grand que nous en quantité puisqu'il y a des centaines de livres. Mais même cette abondance, moi, je la trouve merveilleuse.
Isabelle, je sais que vous êtes une grande amoureuse des librairies, que vous y avez passé beaucoup de temps. Quel genre de souris de librairie êtes-vous? Est-ce que vous venez avec une idée précise ou est-ce que vous vous laissez séduire par la curiosité? Comment est-ce que vous choisissez un livre?
Alors, il y a deux visiteuses chez moi. Il y a celle qui vient avec les enfants. Parce que je refuse que mes enfants se séparent des livres, enfin ne connaissent pas ce plaisir-là. Et donc on a instauré d'aller au moins une fois par semaine, tous ensemble, et ils doivent remporter avec eux obligatoirement 2 livres chacun. Donc comme ils sont 3, ça nous fait 6 livres. Et puis après, quand je viens toute seule, je flâne. J'aime parler avec les libraires, comme on a fait tout à l'heure, avant que vous arriviez. On a beaucoup discuté de tous les livres de la rentrée. Et parfois, ça influe sur mon choix. Et puis j'aime aussi beaucoup aller dans les rayons plus classiques. À un moment donné, je me concentrais sur la littérature d'Europe centrale. À un autre moment, sur la littérature américaine. À un autre moment, je ne choisissais que des livres anglais. Voilà, je suis un peu monomaniaque. Et parfois, je lis un auteur. Alors, par exemple, Joyce Carol Oates, c'est parfait, puisqu'elle a écrit au moins 100 livres. Là, il y a du boulot. On peut revenir et revenir dans la librairie.
Vous êtes tranquille. Voilà. Et je crois qu'il y a un nouveau titre de Joyce Carol Oates qui sort au mois d'octobre. Philippe, vous avez lu le livre d'Isabelle Carré, Du côté des Indiens, en avant-première. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé?
En fait, je l'ai lu pour des raisons très particulières, dans un moment un peu de fragilité personnelle, et j'ai été impressionné par l'aspect choral du livre et le fait qu'il s'ouvre aussi par un récit d'un point de vue d'un enfant. Et aussi j'ai été très séduit, on sent que c'est le livre d'une lectrice et d'une femme qui aime la littérature. Donc ça c'est très agréable. La violence qu'il y a dans ce livre, qui est quand même des fois à peine dite et puis des fois beaucoup plus crue, elle est presque une libération, en tout cas sur la fin. Mais c'est un livre que j'ai trouvé très touchant et c'est un livre de lectrice.
Mmh. Oui, effectivement, parfois je me retiens de ne pas être trop dans des références parce que, en fait, j'ai même un carnet là avec moi, vous voyez, où il y a marqué toutes mes phrases bijoux, toutes les phrases qui me font du bien, les citations, mais aussi des livres. J'en ai 2 dans mon sac là, toutes cornées. Et en fait, pour moi, les livres, ce sont des petits cailloux sur le chemin, sinon je me perds, quoi. Et donc, j'ai cette reconnaissance, en fait, immense. Pour les auteurs qui, au détour d'un livre, me donnent une phrase qui va me conduire sur la bonne route toute la semaine, voire tout le mois, voire la vie entière. Donc c'est vrai que j'ai envie de le rendre en écrivant aussi.
Moi, ce dont j'ai envie, c'est que nos auditeurs se précipitent au divan ou ailleurs pour acheter votre livre. Alors, pour leur en donner une idée, on peut peut-être leur expliquer que le livre s'ouvre par un petit garçon qui est dans son appartement, qui est dans l'entrée et qui attend avec impatience son père parce que c'est son anniversaire, il va avoir 10 ans et parce qu'il a envie de lui montrer un bon bulletin. Il a fait beaucoup de progrès. Et puis, il a vraiment l'oreille collée. Il entend le bruit de la porte d'entrée, il entend le bruit de l'ascenseur. Mais stupeur, l'ascenseur ne s'arrête pas au 2e étage et poursuit sa progression jusqu'au 5e étage. Pourquoi son père ne s'est-il pas arrêté? Et pourquoi a-t-il l'air si heureux de retrouver la voisine? À partir de là, comme Philippe, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que l'histoire, elle est non seulement racontée par quatre personnages, mais elle est ressentie par quatre personnages. C'est ça que je trouve beau. Et pour vous en donner une autre idée, amis auditeurs, on va écouter un artiste.
La faiblesse des tout-puissants. Comme un Lego avec du sang. La force décuplée des perdants. Comme un Lego avec des dents. Comme un Lego.
Alors, vous avez reconnu Isabelle ?
Ah oui, bah, tout de suite, c'est bon, Bachung, que j'aime tellement. Et d'ailleurs, je l'avais déjà cité dans Les Rêveurs, avec cette chanson qu'on ne connaît pas beaucoup de lui, c'est Les enfants qui tombent du balcon, cette petite chanson-là qui me faisait penser à ma chute. Quand j'avais 3 ans et demi, j'ai pensé voler et j'ai sauté par la fenêtre.
Comme dans le film de François Truffaut, L'argent de poche.
Absolument.
Et vous êtes...
Et j'ai bien vu que, voilà, non, je ne volerai jamais, si ce n'est dans mes rêves, d'où les rêveurs. Mais là, effectivement, ce qui m'intéressait, c'était cette phrase, la force décuplée des perdants. Effectivement, on pourrait dire que c'est 4 perdants magnifiques. Ziad, ce petit garçon dont on a parlé, qui voit son père tromper sa mère avec la voisine du 5e, qui sonne un petit peu la fin de ses illusions, la fin peut-être de son enfance même. Le personnage de Muriel, qui aussi, plus tard, vers l'âge de 20 ans, apprend difficilement que son désir compte peu, finalement. Que ce qui compte dans une relation qui n'est pas consentie, c'est le désir de l'autre et le sien est effacé. Et ça va la marquer pour toute la suite. Puis le personnage de Bertrand, qui est donc le père qui trompe sa femme avec la voisine du 5e, lui, ben, on voit qu'il traverse effectivement d'autres vagues où il doit se rétablir avec des problèmes de santé et qui peut-être voilà, justifie aussi son désir de vivre, ce qui n'a pas encore été vécu et peut-être cette passion. Et enfin, Anne, la mère qui est la dernière en fait à intervenir dans le livre, qui est bien silencieuse et qui va effectivement avoir peut-être le personnage le plus violent de l'histoire. En réalité, je les ai pensés un peu, Anne et Muriel, comme les revers d'une même médaille. Muriel qui n'a rien su dire, qui a été tétanisée, auquel on n'a pas demandé son consentement et qui n'a pas su dire non. Et Anne, qui, elle, va pousser le curseur très loin et va répondre avec beaucoup de violence.
Et c'est elle qui dit qu'elle est toujours du côté des Indiens.
Voilà.
Expliquez-nous ce titre que je trouve très beau. Moi, je choisis souvent mes livres en fonction des titres. Et du côté des Indiens, je trouve que c'est très séduisant.
Le titre, il s'est imposé à moi à plusieurs moments, effectivement. C'est-à-dire, oui, pas du côté des cow-boys, pas du côté de ceux qui sont censés être les héros. En tout cas, qui ont réécrit l'histoire pour faire en sorte d'être les héros.
François Sagan disait qu'un écrivain, c'était une voix. Moi, je trouve qu'on entend la vôtre dans votre écriture très poétique. Est-ce que vous voulez bien, avec votre belle voix, nous lire un petit extrait, Isabelle Carré ?
Alors, comme je vous ai dit, il y a l'histoire de consentement dans ce livre. Et alors, je vais vous lire un petit extrait qui a trait à ça. Le personnage de Muriel voit l'affaire Weinstein à la télévision pour la première fois.
New developments in the Harvey Weinstein scandal. Another actress has come forward, accusing him of sexual assault and suing the company.
I told him no, 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 but he insisted.
Les témoignages se succédaient en gros plan, et Muriel commença à avoir du mal à respirer.
I would not have wanted anyone to do that to me, even if the person had been a romantic partner. I remember Harvey.
Dans ses poumons, l'air ne circulait plus. Le malaise grandissait au fil du reportage. La sensation de rejoindre l'écran, de se confier aux côtés des vedettes interviewées l'envahit peu à peu. Certaines s'arrêtaient de parler à la recherche du mot juste ou brusquement saisies d'émotion. Mais la plupart, avec obstination, enchaînaient sans s'interrompre. Leur récit était fluide, chargé de détails éloquents, elles paraissaient sûres d'elles. Dans chacun de leurs gestes, on devinait qu'elles s'étaient longuement préparées. Et à leur attitude concentrée, leur voix posée, qu'elle s'était jurée d'aller jusqu'au bout. L'une d'elles écoutait la question en serrant la mâchoire, résolue de rester maîtresse de la situation. Une autre, plus âgée, confirmait ses accusations en martelant l'air avec ses mains. Plongée dans leurs souvenirs comme s'ils dataient de quelques heures, toutes évitaient soigneusement de croiser le regard du journaliste et fixaient plus loin, un point dans le vide.
Alors c'est intéressant que vous ayez choisi ce petit passage. Même si Muriel n'est qu'un des quatre personnages de ce livre, j'ai l'impression qu'avec ce personnage-là, vous apportez votre petite pierre, ou même votre gros caillou, au mouvement de libération des femmes. Mm-hmm. Vous n'aviez pas voulu vous exprimer au moment de l'éclatement de l'affaire.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler ?
J'avais pas envie de m'exprimer parce que je voulais pas ajouter aux petites phrases qui font le buzz. Et surtout, je voulais trouver un moyen d'expression qui me correspondait. Et le roman, c'est le temps du roman. On a le temps de développer une histoire, de pouvoir permettre aux gens de s'identifier à un personnage et surtout de transformer son expérience et sa réalité en fiction. C'est un peu ce que j'avais déjà fait dans Les Rêveurs. Alors effectivement, c'est le passage peut-être le plus autobiographique du livre. Je me suis inspirée de choses que j'avais vécues et aussi de ce que j'avais vu autour de moi en 32 ans de métier sur les plateaux. Vous pensez bien que j'en ai entendu et que d'autres actrices se sont confiées à moi aussi. Voilà. Et le personnage de Muriel regroupe un peu toutes ces expériences-là. Et pourquoi j'avais envie de m'exprimer ? C'est parce que nommer les choses, c'est important, évidemment. Mais pour moi, ce qui était important, c'était surtout de montrer quelle empreinte ça laisse, plus que de nommer ou de dénoncer. Je ne juge pas du tout les personnes qui ont besoin de dénoncer parce que ça peut être aussi salvateur et on sait que toute blessure qui n'est pas dite peut gangréner. Mais là, il s'agissait pour moi vraiment de montrer à voir l'empreinte que laissent des expériences comme celle-ci qui sont plutôt la zone grise, je précise, c'est pas vraiment le viol, c'est plutôt une façon d'avoir été happé dans une relation non désirée.
Merci Isabelle Carré.
On remonte dans le temps au rayon jeunesse.
Isabelle Carré, conformément à la tradition de ce podcast, après Leïla Slimani, Sophie Fontanelle et Monica Sabolo, nous allons partir au rayon de la jeunesse et nous allons chercher les livres qui vous ont marqué lorsque vous étiez enfant. Alors nous avons traversé la rue pour aller au divan perché qui accueille les livres jeunesse et vous avez choisi des contes, pas n'importe lesquels, les contes d'Andersen avec une tendresse particulière pour l'une de ses histoires, Le vilain petit canard. Alors, Madame Bovary, c'était lui, Le vilain petit canard, c'était vous.
C'est drôle parce que je me souvenais plus de la fin et je me pensais souvent voilà comme un vilain petit canard dans ma famille aussi parce que nous sommes un peu les roturiers d'une famille noble du côté de la Vendée, donc on a toujours été voilà, ça a été ce que je raconte dans Les Rêveurs, difficile de se faire accepter par moments, et j'avais oublié la fin. J'avais oublié que en fait
vous étiez devenu un cygne.
En fait, on n'est pas des vilains petits canards. On est des cygnes, il fallait juste qu'on rencontre d'autres cygnes pour se sentir bien.
Et puis, il fallait grandir aussi.
Voilà, il fallait comprendre que voilà, il suffit juste de trouver le bon endroit, la bonne place pour prendre son envol, pour se sentir non pas vilain, mais, mais gracieux.
Qui est-ce qui vous a donné le goût de la lecture, hein ?
C'est drôle, je ne me suis jamais posé cette question. Bon, j'ai eu une éducation artistique vraiment merveilleuse, mais très centrée sur l'art plastique, puisque mon père était designer, donc nous allions dans les musées vraiment plus que fréquemment. Mais la lecture, non, c'était pas... Et en fait, c'est venu tout seul, en fait, c'est venu par des livres qui m'ont happée et qui m'ont donné envie de continuer. Voilà, et que par contre, alors j'ai arrêté quand j'ai été enceinte, très bizarrement, et quand j'ai eu des enfants, j'ai fait vraiment une énorme pause Kit Kat.
Vous vous sentiez pas...
J'arrivais plus à lire, j'étais plus disponible, et pendant ce moment-là, j'ai vraiment arrêté. Puis j'ai repris quand les enfants sont devenus plus grands.
Et alors, contrairement à vous, vous nous expliquiez que vous les emmenez dans des librairies pour acheter des livres, et que lorsqu'ils étaient petits, vous leur lisiez un album magnifique, Grosse Colère.
Oui, Grosse colère parce que c'est un livre bon, qui est très imagé et qui aide les enfants, et j'ai envie de dire les adultes aussi, à accepter leur colère, à la, pas à la domestiquer, mais pas à la glisser sous le tapis, quoi, pas en avoir, ne pas en avoir peur, à l'assumer et à se dire que oui, on peut aussi voilà, la regarder en face un petit peu.
Il est signé Mireille d'Alençay et publié à l'École des loisirs.
C'est très important de donner aux enfants, j'insiste là-dessus, le goût de la librairie. Ils continueront plus tard. Et quand j'ai vu l'autre jour un enfant glisser sur un livre comme ça, qu'on lui tendait sa main, comme s'il était sur une tablette, il ne savait même pas qu'on pouvait tourner les pages. Ce n'est pas possible, ça.
Oui, surtout que les livres n'ont même pas besoin d'être chargés. Et en plus, on peut les passer à tout le monde. Votre dernière colère, Isabelle Carré ?
Ma dernière colère, si. Des gros bateaux, vous savez, ces gros bateaux de touristes énormes qui se retrouvent dans des baies. Sont déjà à Venise et ailleurs, dans des baies fragiles. Et que, voilà, et que j'ai vu dans une baie qui m'est chère, la baie de Saint-Jean-de-Luz. Et je me dis, non, on ne peut pas faire rentrer ces bateaux-là. Et voilà, donc tout ce qui peut faire en sorte qu'on protège maintenant la mer qui en a tellement besoin, on ne peut plus se permettre de faire des choses comme ça.
Merci Isabelle.
Une nuit en librairie.
Philippe, Philippe, où êtes-vous dans cette librairie ? J'ai encore une question. La légende dit que le fondateur de cette librairie prescrivait le rouge et le noir pour soigner ses clients. Oui. Est-ce que c'est vrai ?
Moi, j'ai entendu la légende, mais comme Isabelle Carré adore les westerns, on va garder la fin de l'homme qui l'a tué à Liberty Valence. Quand on ne connaît pas la légende ou la vérité, on garde la légende quand elle est plus belle que la réalité.
Se soigner par les livres, c'est une expérience que vous avez vécue, Isabelle Carré. Les livres peuvent sauver la vie, mais pas seulement les livres d'ailleurs, l'art en général. Vous avez raconté qu'à l'adolescence, vous aviez fait une tentative de suicide et une grave dépression, et qu'une personne vous avait sauvé la vie. On va écouter sa voix.
Leur faim avait envie de mordre. Ils se ressaisirent avec leurs mains et leurs bouches. Il ouvrit les bras. Au moment où le plaisir le fut passé dans son couloir mystérieux, ils se regardèrent dans les yeux. Avec une ardeur fraternelle, ils voulaient faire ensemble ce voyage à travers les enfers, où la plupart se quittent et se perdent.
Moi, je peux l'écouter pendant des heures.
C'est magnifique.
C'est une telle voix, c'est une telle grâce et une telle émotion.
Alors, tout le monde a reconnu Romy Schneider, peut-être pas le film...
Une femme à sa fenêtre.
Voilà, de Granier de Fer, un film que vous regardez. Et il y a une phrase qui vous marque particulièrement, très belle.
Préférer les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort.
Et là, tout d'un coup, il y a une petite... Un petit chemin qui s'ouvre devant vous.
Oui, je vais chercher mon cahier qui est dans ma chambre et je suis dans la chambre d'un autre patient qui a une minuscule petite télé, toute minuscule comme ça sur laquelle on peut voir. Je suis dans un hôpital psychiatrique, donc et cette toute petite télé, voilà, on se planque dans la chambre, on n'a pas le droit de regarder ses films, on se planque dans sa chambre pour regarder ses films et je vais chercher mon cahier et j'écris cette phrase et après je me la récite tout le temps et puis je me dis mais au fond. Il faut que je la joue, il faudrait que je joue comme elle. Et voilà, je vais m'inscrire dans un cours de théâtre. Et je sors de cet hôpital psychiatrique et je m'inscris à un cours de théâtre. Et tout va mieux.
Le jeu vous a sauvé, on peut dire ça aussi ?
Oui, puis de rencontrer des gens qui aimaient les mots comme moi, les textes comme moi. J'étais plus un vilain petit canard, j'étais parmi les cygnes. Et puis j'avais le sentiment de pouvoir m'exprimer, d'avoir un endroit où les émotions n'étaient plus embarrassantes, comme elles le sont dans la vie quotidienne. Là, on avait le droit de pleurer, et même c'était souhaitable. On disait, quand on pleurait dans une scène, ouais, tu as livré une belle émotion, bravo. Alors que dans la vie, on dit, dis donc... T'es pas
Retiens-toi.
Très gay. Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh là là. Bon, c'est toujours un peu gênant et ça devrait pas d'ailleurs.
Bien
On
sûr.
Devrait accueillir les émotions avec beaucoup plus de bienveillance.
Vous avez dit également Adolescente, j'ai arpenté les librairies et passé des heures à fouiller les rayonnages, à la recherche d'un livre qui serait la vraie vie mode d'emploi, un livre salutaire et lumineux dans lequel j'aurais puisé des conseils apaisants pour vaincre le désarroi et même cette panique que je ressentais dans l'existence. Eh bien, ce livre, vous l'avez trouvé ?
Oui, en fait, j'en ai trouvé plusieurs, mais effectivement, Biographie, un jeu de Max Frisch.
Je ne l'ai pas lu. Est-ce que vous pouvez me raconter ?
Alors oui, tout à fait. En fait, on propose, le jeu, c'est une espèce de diable, mais bon, on ne sait pas très bien qui c'est, propose à notre héros de changer un élément de sa biographie. Vraiment quelque chose qui a été pénible pour lui, gênant, douloureux, cruel, terrible. Alors il va visiter de l'enfance jusqu'à à l'âge adulte les moments vraiment pénibles. Alors le premier, par exemple, c'est quand il était dans la cour de l'école et qu'il avait un pistolet en balle à plomb et qu'il a visé un camarade et qu'il a tiré dans l'œil de ce camarade qui est devenu borgne à cause de lui. Alors ça, évidemment, il voudrait le changer. Mais sauf que s'il change ça, il ne change pas d'école, il ne rencontre pas, je ne me souviens plus, mais son amoureuse, enfin bref. Et tout découle de tout. Donc non, et il va revisiter comme ça son divorce, une rencontre amoureuse, tous les cataclysmes qu'il a eu dans sa vie, il se rend compte que non. En réalité, ne peut rien changer parce que s'il n'était pas passé par ces moments-là, il n'y aurait pas eu d'autres éléments qui, au contraire, ont été des éléments révélateurs, indispensables. Voilà, et donc j'ai trouvé ça très apaisant et très rassurant.
Qu'est-ce qui vous a apaisé dans ce texte ?
De me dire que même les moments douloureux sont nécessaires et qu'il fallait en passer par là pour arriver à un autre point et continuer.
Et si vous, Isabelle Carré, vous deviez changer un élément de votre biographie ? Qu'est-ce que vous changeriez ?
Je me serais mise à écrire plus tôt.
Ah oui ? Parce que c'est une liberté ?
Mais vraiment, je me dis, c'est fou quand même, parce que quand les rêveurs, j'ai regardé, ce que je fais jamais, les vieux cahiers, pour trouver le cahier justement de l'hôpital psychiatrique, parce que je cite une page dans les rêveurs, enfin je note une page de... telle quelle, de ce cahier, et j'avais besoin du coup de ce matériel-là et de regarder. Et dans chaque cahier, mon désir d'écrire. Alors pourquoi je l'ai mis de côté ?
Et pourquoi est-ce qu'il a ressurgi ?
Parce que comme le personnage de Bertrand, j'ai eu à un moment donné, avec une grande acuité, la sensation, peut-être l'âge, j'ai 49 ans, j'allais dire 59, j'ai 49 ans, et je me suis dit, mon Dieu, mais il faut que je me dépêche là, j'ai plus le temps. Et cette urgence que vit Bertrand, en fait, c'est vraiment la mienne. Dire là, maintenant, il faut se dépêcher de vivre ce qu'on s'est toujours dit qu'on vivrait et puis qu'on fait pas et qu'on remet toujours à plus tard. Et c'était un réveil.
Et après avoir dit tant de mots des autres...
C'est ça, c'était un peu inhibant aussi, vous savez. C'est ce qui m'a sauvée, je le dis. Mm-hmm. Mais c'est très inhibant aussi. Vous imaginez quand vous côtoyez Shakespeare, Tchekhov, que vous vous passionnez de Parsweg, Schnitzler, Hofmannsthal. Et vous dites, ah bah tiens, moi aussi, bah pourquoi pas.
Mais en même temps...
C'est difficile.
L'ivresse, c'est que ce sont vos mots à vous.
Voilà, alors effectivement, autant j'aime être au service d'un auteur. Et on a une position vraiment... assez particulière les acteurs par rapport aux auteurs. Parce que il faut s'imaginer quand on joue une pièce, quand j'ai joué Mademoiselle Else de Schnitzler, j'ai lu tout Schnitzler, je l'ai appris pendant 2 mois, je l'ai joué pendant 7 mois. Donc voilà, ça m'a habité pendant un an en fait. Autant j'adore ça, autant tout à coup de me dire mais quelle est ma musique ? Quelle est ma façon à moi d'agencer les phrases ? Dans quel univers j'ai envie de me plonger ? Et quand on est comédien, en fait, on a la trajectoire d'un seul personnage.
Bien
sûr. Ce qui est pas mal. Ce qui fait que souvent, le metteur en scène vous dit « tu sais mieux que moi ». Parce que toi, tu es que dans le personnage, alors que moi, j'ai toute la mise en scène. Hein. Mais quand on est un auteur, tout à coup, oui, on a... tous les personnages, on a la musique, on a la lumière, on a les décors. Si j'ai envie que le cendrier soit là, il sera là. Si j'ai envie de faire une ellipse, je la fais. Si j'ai envie qu'il y ait 200 figurants, c'est possible aussi. Ce qui est la grande différence avec les scénarios. Les scénarios, vous avez un producteur qui va vous dire « Non, 200 figurants, c'est trop cher. »
Bien sûr, non, là, vous pouvez mettre des milliers de...
C'est ça. L'ellipse, elle est un peu dure là, pour les spectateurs. L'ellipse, pense aux gens qui vont regarder le film à la télévision, qui seront fatigués. Il faut leur faire comprendre quand même les choses. Et comme le... Alors, vous pourriez me dire que le boulot qui est un peu l'équivalent, c'est celui d'un éditeur. Mais je me suis aperçue que non, il y avait une grande liberté et que on me. Alors j'ai peut-être la chance aussi d'être avec Juliette Jost chez Grasset et c'est vrai que le dialogue est formidable, l'écoute est formidable et ma liberté est totale.
Mais les éditeurs sont des gens merveilleux qui préservent tout à fait la liberté des,
c'est vrai,
des auteurs, je trouve. Oui. Vous parliez de Schnitzer. Vous avez choisi également, au rayon du théâtre, de cette belle librairie Le Divan, Tchekhov, un autre auteur de théâtre. Pourquoi Tchekhov?
Alors, je l'ai lu en entier, théâtre et nouvelles, quand j'avais 16 ans, alors que j'étais censée faire un stage de planche à voile. Je ne suis pas montée sur la planche à voile une seule seconde. Et je suis restée sur la plage, en pull, à lire tout Tchekhov. Et c'est un été, pour moi, inoubliable. Je vais vous citer une phrase de Nina, de mémoire, la mouette de Tchekhov. « Je sais maintenant, je comprends, Kostia, que dans notre métier, artiste ou écrivain, peu importe, l'essentiel n'est ni la gloire, ni l'éclat, tout ce dont je rêvais. L'essentiel, c'est de savoir endurer. Apprends à porter ta croix et garde la croyance. J'ai la foi et quand je pense à ma vocation, la vie ne me fait plus peur. » Grâce à Tchekhov, la vie ne fait plus peur, voilà. C'est aussi simple que ça.
L'essentiel, c'est de savoir endurer. C'est...
Et de garder la croyance et la foi et de plus avoir peur.
Vous l'avez joué, la mouette?
Non, mais c'est un gros, gros drame.
Bah, je rêve encore.
Mais non, Nina, elle a 20 ans, quoi.
Oui, mais vous êtes un signe, donc les signes, ça n'a pas d'âge.
Je pourrais peut-être jouer la mère un jour.
Ah non. Jean Giono, que ma joie demeure. Que
alors
vous avez
ça
également
aussi,
choisi.
C'est un grand choc quand j'avais, pareil, 16-17 ans.
Vous étiez à un stage de paddle?
Non, même pas, mais alors... mais c'était un choc parce que... Alors j'ai en plus eu la chance de jouer après, Le Hussard sur le Toit, mise en scène par Jean-Paul Rapneau. Mais j'avais déjà lu ce livre. Et c'était un choc parce que, bon, je ne veux pas tout dévoiler, mais à la fin quand même, oh bah tant pis, je le dis, quoi, le héros meurt... Et il y a un orage insensé. Et j'ai terminé le livre, moi-même sous l'orage, en voyant de la foudre tomber dans le jardin d'en face et briser un arbre. Voilà, donc j'ai vécu ce livre. Mais au-delà de ça, ce que raconte ce livre qui est très beau et qu'il faut lire aujourd'hui, vraiment, dans cette période assez xénophobe, ce que ça raconte, c'est l'histoire d'une vallée qui, en fait, les fermes, comme parfois, voilà, dans ces coins isolés, ont perdu le contact les unes avec les autres, sont fâchées et on ne se souvient même plus pourquoi on est fâché. Et il y a un étranger qui débarque une nuit étoilée, une nuit magnifique dans cet endroit et qui va aider les uns les autres à retisser des liens, à retisser de l'amitié et, voilà, et à faire en sorte que la vie revienne dans cette vallée. Voilà, et donc c'est pas mal de se dire ça aujourd'hui, qu'au lieu de laisser les bateaux avec des enfants et des femmes enceintes, des bateaux de migrants, et ne pas les laisser, ces pauvres gens, accoster et pouvoir refaire une nouvelle vie, ben voilà, lisez ce livre Que ma joie demeure.
Et pour terminer cette séquence, vous avez aussi choisi une auteure beaucoup plus contemporaine, qui a été redécouverte par Grasset il y a 2 ans, Lucia Berlin. Incroyable livre.
Je suis contente qu'on en parle.
Moi aussi.
Mais tellement heureuse. Alors voilà, il y a 2 livres. Il y a Manuel à l'usage des femmes de ménage, qui est le premier qui est sorti. Il y a Un soir au paradis, qui est le deuxième qui est sorti. Et alors, si vous pouviez, cher lecteur, faire un grand succès de librairie avec ces 2 livres, car je sais que Grasset en a un 3e dans les mains et attend de voir si ça marche pour sortir le 3e.
Olivier Nora, si vous nous écoutez, donc, évidemment, il faut sortir le 3e.
Il faut sortir le 3e, donc achetez Lucia Berlin pour qu'on puisse lire le 3e. Je vous en supplie.
Qu'est-ce qui vous attend plus dans cette auteure foisonnante, extraordinaire?
Sa personnalité. Et ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est complètement iconoclaste. On sent que c'est quelqu'un qui s'est faite toute seule, qui a eu 1000 métiers, qui a eu 1000 vies. Qui a eu des moments de richesse comme des moments de pauvreté absolue et qui nous raconte tout ça avec un regard d'une acuité et d'une singularité étonnante. C'est poignant Et on l'aime à la folie, cette femme. Moi, je sais pas, c'est devenu une amie, quoi. Alors malheureusement, elle est morte, mais je l'ai en moi, quoi. Et j'ai beaucoup de reconnaissance qu'elle nous a écrit ces deux livres, et je veux le troisième, s'il vous plaît, je vous en supplie.
On peut les trouver au livre de poche, et je suis sûre que grâce à vous, Lucia Berlin va devenir un immense succès de librairie. Merci Isabelle.
J'aimerais tellement.
Une nuit en librairie. La nuit en librairie, un parcours initiatique.
Isabelle Carré, je suis impressionnée par votre capacité d'enthousiasme et votre capacité à la partager avec nos auditeurs. Alors on va continuer avec un genre particulier de roman, le roman d'initiation. Mmh. On peut d'ailleurs dire que les rêveurs en étaient un.
Le début. Alors, du côté des Indiens aussi, avec Ziad, oui.
C'est vrai, tout à fait. Et puis après, c'est plus un roman d'émancipation.
Oui.
Parmi les gens qui ont compté dans votre parcours, je crois qu'il y a une femme qui a été très importante. On va l'écouter.
C'est du travail ou vous pensez qu'au fond, il y avait une sorte de don en vous, au départ?
Pour tout le monde, il faut un don au départ, ça, il n'y a pas de doute. Je crois que s'il n'y a pas de don, il n'y a pas d'acteur, je ne crois pas. Le travail seul ne suffit pas, il faut les deux.
Vous êtes incroyablement modeste.
Non, je ne suis pas modeste, pas particulièrement. On ne peut pas être comédien et être vraiment modeste. Parce que si on vient se présenter devant un public, c'est qu'on pense qu'on mérite d'être regardé et qu'on peut intéresser les gens, donc on n'est pas tellement modeste.
J'adore cette phrase.
Suzanne Flon, mon Dieu. La voix de Suzanne Flon.
Que vous avez rencontrée au théâtre, toute jeune?
C'était incroyable parce que j'allais jouer le Malcourt de Audiberti et j'avais la trouille parce que j'avais 20 ans et c'était vraiment un rôle écrasant. Et le directeur du théâtre de l'Atelier m'a dit « Mais peut-être tu devrais appeler Suzanne Flon qui l'a créée. » Alors j'ai dit « Bon, d'accord. » Il m'a donné son téléphone, j'osais pas, puis j'ai osé. Elle m'a invitée chez elle. Et elle m'a parlé de sa vie, de ce rôle, pendant toute l'après-midi. C'est inoubliable. C'est ce que j'ai ressenti par rapport au théâtre, et notamment grâce à des gens comme elle, c'est-à-dire qu'on m'a accueillie. Ce qui n'était pas évident, quoi, quand on connaissait personne, et qu'on se disait, tiens, bah, je vais peut-être essayer le théâtre, bon. Et on m'a ouvert la porte, quoi. Et je dois dire que je suis très touchée, parce que par rapport aux rêveurs, et à ce livre du côté des Indiens aussi, j'ai ressenti vraiment une bienveillance. Voilà, et aussi une sorte de, oui, de façon d'être invitée et d'être accueillie. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Je m'attendais à un accueil, voilà, curieux. Tiens, bah, une actrice qui écrit, voilà. Et j'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose de plus généreux que ça de la part des journalistes et des lecteurs aussi. Et ça m'a beaucoup touchée.
Parce qu'il y a dans vos livres à la fois une dimension très intime et en même temps un écho dans la vie de chaque lecteur. Moi, je trouve, et je pense que c'est pour ça que vous avez été si bien accueillis, vous avez été très vite entre les rêveurs et du côté des Indiens. Comment est-ce que vous êtes remis devant votre ordinateur? Vous écrivez avec un ordinateur à la main?
Avec un ordinateur, en fait, j'avais déjà commencé du côté des Indiens avant la sortie des rêveurs. J'ai voulu aller trop vite, pour être très sincère. J'avais une première version un an et demi après la sortie, mais tout était tissé. Parfois, dans des chapitres, je passais d'un point de vue à un autre. Et il m'a fallu du temps, en fait, pour m'accorder du temps et pour me dire que j'avais la possibilité de refaire et de détricoter tout ça et de faire ces quatre parties pour laisser à chaque personnage sa vision. Ça a été un grand processus, en fait, pour trouver la bonne forme.
Mais c'est ça, c'est du travail, comme disait Suzanne Flon.
Oui, oui.
Et puis un don.
Un don, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, je pense que le travail, c'est il y a revoir et revoir et revoir et jusqu'à en devenir fou, quoi. Même parfois, j'apprends quelques phrases comme ça dans ma tête, puis je fais le tour du pâté de maison en me la disant, je me dis, est-ce que c'est le bon rythme? Non, il faut encore enlever ça ou voilà. En plus, comme je me sens pas du tout légitime malgré tout et que je m'y mets sur le tard, je doute beaucoup. Donc, il faut revoir souvent et plus que souvent ma copie, c'est sûr.
Parmi les auteurs qui vous ont donné le goût d'écrire, vous avez choisi Richard Brautigan.
Ah oui, j'ai une tendresse pour Richard Brautigan parce que... D'ailleurs, c'est un peu le Richard Brautigan américain, Lucia Berlin. Le Richard Brautigan féminin, en fait, mm-hmm. Lucia Berlin. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est très singulier. Sa voix ne ressemble à personne d'autre. Il a ses chapitres très courts. Ce sont des nouvelles aussi. Enfin bon, ou alors, comme dans Tokyo Montana Express, c'est un briquet, mais ça ressemble un peu aussi quand même à des... Enfin, il y a quand même un livre que j'aime beaucoup qui... c'est pas que des nouvelles Brautigan, je disais ça, mais il y a L'avortement, qui est un livre qui me touche énormément, qui est un de ses premiers livres.
Qui est un texte incroyable, incroyable. À l'époque où il l'écrit.
Incroyable. Ouais. Il y a aussi qui se passe dans une librairie, l'avortement. C'est une librairie complètement extraordinaire qui, paraît-il, a été créée, qui existe, du coup, qui a été inspirée de...
Après le livre.
Après le livre, ouais. Qui est une librairie, en fait, dont celui qui la tient recueille tous les ouvrages des gens, tous les gens qui veulent donner leur ouvrage, leur manuscrit, en un seul exemplaire, et qui va garder précieusement dans sa librairie, et qui ne sont pas vraiment à vendre, en fait, mais qu'on peut consulter. Et il est là, matin, midi, soir, nuit, il ne ferme jamais sa librairie, au cas où il y aurait quelqu'un qui voudrait déposer son texte à 3 heures du matin. Je trouve ça sublime, quoi, cette idée.
Vous êtes en train de raconter ça en regardant Philippe,
ouais, genre,
le patron de la librairie. Mémoire sauvée du vent, c'est un autre titre de Richard Brautigan. Oui. Vous savez que tous les volumes que vous avez choisis ont des titres absolument sublimes. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mm-hmm. mais Mémoire sauvée du vent, absolument magnifique. Oui. Et vous avez choisi aussi Les vitamines du bonheur. De Raymond Carver,
oui. C'est vrai que les titres, et ça c'est vraiment, vraiment, vraiment la marque de fabrique de Richard Brautigan. C'est pas seulement les titres, c'est aussi chaque titre de chapitre. En fait, parfois, les chapitres, ils peuvent être bons, mais alors avec le titre, tout à coup, c'est une poésie, ça s'éclaire, c'est... Les vitamines du bonheur, c'est... À chaque nouvelle, en fait, de Carver, on a l'impression d'avoir vu un petit court-métrage, un film... Et même d'avoir vu la lumière de ce film, la façon dont il éclaire les personnages. Ma nouvelle préférée, c'est un type qui reste sur le canapé dehors. Il est en train de déménager et il reste, il a ses meubles dans son jardin et il reste sur son canapé comme ça. Et il va recevoir quelqu'un, va boire une bière avec lui. Il repense à sa vie, à son divorce. C'est magnifique, quoi.
Isabelle Carré, je vous propose de quitter le divan, parce qu'il faut le dire, il y a un vrai divan au centre de cette librairie.
Dans lequel on est bien confortable.
Bien confortablement installé, pour aller se promener dans les rayons à la recherche des livres que vous avez aimés.
2h12, les coups de cœur.
Si vous voulez vous arrêter... Mmh. Au hasard d'une table. Ça, Déborah Lévy, le coup de la vie, c'est extraordinaire.
Ah, je connais pas, mais moi j'adore Singer par contre. Oh, juste à côté. Oh,
et ça, le fil rompu chez Héloïse Dandesson.
Ça, je l'ai pas encore lu.
Bon, on va jamais y arriver si on s'arrête.
Il faut qu'on avance.
Alors, on arrive. Devant ce rayon.
Carson McCullers. Alors, Carson McCullers, Ça, c'était vraiment une révélation. C'est pas mon préféré, Frankie Adams. Je préfère Le cœur est un chasseur solitaire ou même la balade du café triste.
Encore des titres géniaux.
Oui, on est d'accord. Oui, c'est un merveilleux roman d'apprentissage. Et c'est d'ailleurs le livre qui a inspiré L'effronté avec Charlotte Gainsbourg.
Ah, je savais pas.
Oui, oui.
Bah, c'est l'histoire d'un cygne qui pense qu'elle est un vilain petit canard.
Absolument, hein. Absolument.
Alors, il y a derrière vous...
L'attrape-cœur, voilà. Bah, toujours un roman, effectivement, un roman d'initiation. L'écriture de Salinger, je l'ai lu très tard, en fait. Je l'ai lu il y a 2 ans, à peu près. Et pourtant, c'est un roman qu'on conseille beaucoup aux adolescents, à juste titre, d'ailleurs. Et je me suis dit, tiens, on a cette liberté-là, quoi. On peut écrire, comme on parle ou comme on est, ou en étant irrévérencieux, en étant aussi moderne que ça.
Vous avez un rapport particulier à l'enfance, ou je me trompe ?
Oui, non, c'est vrai que je suis un peu restée fixée là-dessus. D'ailleurs, je fais un métier, imaginez, je joue, quoi. Enfin, quand je dois partir travailler, je dis à mes enfants, au début, je disais, je vais jouer, maman va jouer, puis après, je me dis, mince, c'est une erreur, parce qu'ils vont me dire, mais pourquoi tu vas jouer tout seul ? Toute seule, joue avec nous, plutôt, ça serait plus sympa. Alors, je suis obligée de dire, non, je vais travailler.
Et pour terminer, on va s'intéresser à un Français qui est égaré dans ce rayon de littérature étrangère,
ouais.
De notre faute, pas du tout de la faute de Chloé, ni de Philippe, ouais. Qui sont là avec nous.
Voilà, mais c'est une belle promenade, comme Robert Walsler qui avait écrit La Promenade. Bref, alors celle-là, La vie devant soi, eh ben oui, c'est parce que je suis dingue de Romain Gary, gros câlin, voilà, et La vie devant soi, c'est... un petit peu ce qui m'a inspiré le début
du côté des Indiens.
Du côté des Indiens avec le personnage de Ziad qui est un petit peu Momo. Bon, même si Muriel n'est pas du tout Madame Rosa, pas du tout du tout, mais en fait j'adore les histoires et c'est par ça que je voulais commencer avant d'être attrapée par cette histoire d'affaire Weinstein. Je m'étais lancée en fait dans une histoire d'amitié improbable entre une femme en mal d'enfant et un petit voisin, et improbable parce que ils sont séparés par 3 étages, parce que il y a cette histoire d'adultère entre eux et comment on peut être amis avec des enfants.
Alors on va continuer à se promener. On va donc se diriger vers la table de la rentrée littéraire.
C'est par là ?
Parce que vous avez déjà lu des auteurs de cette rentrée et vous allez être donc notre guide. Alors, on arrive sur la table des 511 romans.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a plu ?
Je vais commencer par L'île de Jacob.
Qui donc a reçu le prix Maison Rouge.
Qui a reçu le prix Maison Rouge et qui d'ailleurs est vivement conseillé par la librairie Le Divan. Donc on a les mêmes goûts.
Donc L'île de Jacob, Dorothée Janin. Aux éditions Fayard.
C'est aussi un roman d'apprentissage. Mmh. C'est un adolescent qui se retrouve sur une île au large de l'Australie qui s'appelle Christmas Island, qui est une île qui existe, qui est réputée pour, une fois par an, être recouverte de crabes rouges qui descendent vers la mer. Et pendant une journée, on a l'impression que l'île est ensanglantée, en fait. Mmh. Sauf qu'elle est en proie à la crise environnementale et aux crises migratoires aussi. Donc, ce qui est très intéressant dans ce roman, c'est qu'il y a un mélange, en fait, entre le monde, ce qui se passe dans le monde, et l'intérieur, les émotions d'un adolescent qui se trouve pris dans un conflit de loyauté, qui découvre une merveilleuse amitié, une histoire d'amour, et qui a une grande désillusion. Donc... c'est un peu ce mélange qui est très beau, en fait, et qui est surtout, surtout, au-delà de l'histoire, incroyablement bien écrit. Il y a des images insensées. Et Philippe Jean n'arrêtait pas de nous dire « Mais ça, c'est vraiment un écrivain. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas lu un écrivain pareil. » Voilà.
Vous avez également choisi, alors là, un garçon.
La Grâce, de Thibaut de Montaigu, alors qui avait écrit un livre juste avant qui s'appelait « Voyage autour de mon sexe », je crois, qui était l'éloge de la sexualité et de son sexe. Et il est passé à carrément autre chose, à la découverte de la foi.
Et c'est ce parcours qu'il raconte.
C'est ce parcours qu'il raconte, et avec une écriture très simple, très intime. C'est en fait en... En fond, la vérité, c'est un portrait d'un oncle qui a eu le même parcours que lui, un parcours un peu de vie dissolue, et qui est devenu moine. Et surtout, en fait, ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'il parle de la foi d'une façon complètement singulière, pas du tout avec les mots qu'on entend dans les églises. C'est sa foi à lui, quoi, et c'est ses doutes. Et c'est ce mélange de... Il fait un pas en avant, deux en arrière, il cherche. Et sa recherche est magnifique. Et la fin du livre, moi, m'a fait pleurer.
La grâce de Thibaut de Montaigu, et c'est chez Plon. Et pour finir, Livre Maria de Julia Kerninon, un livre très très attendu.
Oui, j'ai aimé le portrait de ces générations. C'est un parcours qu'on suit. J'ai beaucoup aimé une scène en particulier qui raconte cette jeune femme qui conduit et qui, dont on abuse alors qu'elle conduit. Elle n'a pas les mains libres et voilà, il y a une écriture très nerveuse. On est vraiment dans une sorte de saga et on suit le parcours de cette femme. Là aussi, on pourrait dire que c'est un roman d'apprentissage aussi. En tout cas, un parcours de vie. Voilà, et j'ai été très, très sensible à la quête de liberté de cette femme.
Je propose de regagner le centre de la librairie Le Divan sans qu'on regarde aucun rayon, Isabelle, parce que sinon...
C'est pas gagné, hein.
C'est pas une nuit qu'on va passer ici, mais c'est toute la journée aussi. Bon, allez, on va se rasseoir.
Une nuit en librairie. 3h34.
Alors, vous allez écouter maintenant une personne que vous aimez beaucoup, qui vous aime beaucoup, et que nous aussi on aime beaucoup, qui vous a lu évidemment, et qui a une question à vous poser.
Coucou Isabelle, c'est Irène à l'appareil. Enfin, c'est Irène sur le podcast. C'est Irène en pensée, c'est Irène en amitié qui te parle aujourd'hui. Et d'abord, pour te dire d'abord tout le plaisir de lectrice que j'ai eu à lire ton livre, ce deuxième livre, qui est un livre, je sais que tu écris beaucoup en musique, et c'est un livre qui est vraiment une suite à quatre voix, avec quatre personnages que tu as tellement bien composé. Chaque personnage que tu as si bien incarné aussi, c'est un livre que tu as appelé Du côté des Indiens. Du côté des Indiens, pour être du côté de ceux qui n'ont peut-être pas la victoire, ou de ceux qui aimeraient être plus forts, qui aimeraient plus, et qui pourtant qui tremblent un peu, qui trébuchent, qui tombent parfois. Et ce serait trop simple, évidemment, si on savait toujours de quel côté être, n'est-ce pas ? Oui, on est souvent dans des zones grises, comme tu le dis si bien, dans des moments où on ne sait plus très bien, on a perdu la boussole et on cherche où se diriger. Alors écoute, Isabelle, vraiment, merci pour ce livre où on sent que tu suis et tu accompagnes chacun de ces personnages à essayer de trouver une voie dans ce labyrinthe bien compliqué et de se libérer du froid et de la solitude et de tout aller vers leur destin. Puisqu'on me proposait de te poser une question. Je pensais à tous ces rôles que tu as magnifiquement interprétés, tous ces personnages aussi que tu as écrits, qui sont souvent de beaucoup de côtés différents, qui sont de bords différents, de cultures différentes. Je suis sûre que, bien qu'ils soient tous si différents, il y a toujours une chose qui importe pour toi, qui anime chacun de ces personnages, de quelque bord qu'ils soient. Et je me disais, quel est pour toi ce dénominateur commun ? Peut-être cette quête, cette attente commune à tous ces personnages si différents que tu écris et interprètes magnifiquement.
Ah, ça, c'est un beau cadeau. J'étais très émue.
Elle parle magnifiquement de votre livre, Irène Jacob.
Elle parle magnifiquement tout le temps. C'est parce que c'est une femme exceptionnelle. Vraiment une humanité extraordinaire. Elle a d'ailleurs écrit un très joli livre sur son père.
Un premier roman chez Albin Michel.
Que je vous conseille. Et très émouvant. Elle a une très belle écriture aussi, Irène. Et oui, alors je ne saurais pas...
C'est pas facile comme question. Ouais, hein. C'est votre amie, mais c'est une question difficile.
J'aime bien les personnages ambivalents. J'aime bien jouer des personnages qui ne sont pas d'un bloc, qui ont une complexité, et parce que la vie est complexe. Voilà, on peut être victime et se sentir coupable, on peut aimer et vouloir rester en distance, comme c'est le cas de Anne. C'est Pirandello qui disait « on n'est pas un, on est mille ». Et j'aime bien quand on me propose des personnages qui ont plusieurs couleurs, qui ne sont pas encore une fois voilà, linéaires et tout d'un bloc.
Alors malheureusement, c'est déjà fini.
Ah, c'était chouette.
Merci pour votre confiance, vos confidences, votre générosité. Entre fragilité et résilience, entre doute et voie à suivre, pour surmonter les croche-pieds de l'existence. Et pour donner de la force à tous nos auditeurs en cette rentrée, une voix que je crois vous aimez beaucoup et qui donne de la vitalité. I'm a tree that grows home. C'est vrai qu'elle donne de la force, Björk.
Oui, ça dépote un peu. Et puis j'aime bien sa singularité. Quand on entend sa voix, on sait que c'est elle, quoi.
Quand vous écrivez, vous écoutez de la musique ?
Oui, tout le temps.
Tout le temps ?
Tout le temps.
Qu'est-ce que vous avez écouté ? C'est quoi la bande originale du côté des Indiens ?
Alors en général, j'essaye qu'il n'y ait pas trop de paroles. Ouais. Parce que sinon, ça me perturbe un peu. Ou alors, il faut que ça soit anglais et que je ne comprenne pas trop. Mais j'aime bien les musiques en fait un peu répétitives qui me donnent le sentiment d'avancer. Comme j'aime beaucoup, par exemple, écrire dans les trains. Parce que j'ai l'impression que mon écriture avance en même temps que le train.
Dernière question, et vraiment dernière question. Mmh. Les livres que vous aimez offrir ?
Alors j'aime offrir, de la littérature, mais j'aime aussi offrir des romans graphiques. Et effectivement, il y a un qui est magnifiquement dessiné, qui est très sensible, très touchant. C'est Frances, de Johanna Algren. Et il y en a un autre aussi d'Alison Bechdel qui s'appelle « C'est toi ma maman » ou alors « Fun Home » aussi.
« C'est toi ma maman » a un air de cousinage avec, je trouve, votre premier roman « Les rêveurs ».
Oui, oui, c'est vrai. Il y a quelque chose, oui, oui. Puisqu'elle vit dans une famille homoparentale. J'aime beaucoup, beaucoup ces ouvrages-là parce que d'abord, ils sont vraiment singuliers, ils ont beaucoup d'imagination, ils sont et très beaux. Les dessins de Frances, je vous les conseille, c'est magnifique. On peut juste les regarder avant de se coucher et s'endormir et faire de beaux rêves.
Une nuit en librairie.
Merci à la librairie Le Divan, merci à Philippe, merci à Chloé, merci à Isabelle Carré.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre deuxième roman, publié chez Grasset, du côté des Indiens. C'est un livre qui résonne pendant très longtemps. C'était Une nuit en librairie avec Isabelle Carré.
Une nuit en librairie. Toutes les nuits en librairie sont en podcast sur les plateformes de streaming.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.